Bonjour et bienvenue dans RFI Midi. Nous sommes le dimanche 29 juin, il est tout juste 14h à Paris.
RFI Midi, Olivier Sherman.
La Russie poursuit ses bombardements quotidiens des villes et villages ukrainiens. Les frappes russes de cette nuit ont été particulièrement importantes. Nous irons dès le début de ce journal à Kiev. La polémique en Israël sur les tirs volontaires ou non des soldats israéliens sur la population gazaoui devant les centres d'aide humanitaire. La réaction de Palestiniens en Cisjordanie recueillie par notre correspondante à Ramallah. Et puis le sud de l'Europe suffoque sous une vague de chaleur très précoce. Portugal, Espagne, Italie et France vont connaître des records de température au tout début de l'été.
RFI.
Dans la deuxième partie d'RFI Midi, gros plan sur la situation à Gaza. Nous serons en direct depuis la bande de Gaza avec Marie-Elisabeth Ingres, coordinatrice de MSF sur place. MSF qui demande le démantèlement de GHF, la fondation soutenue par les États-Unis et qui gère actuellement la distribution de l'aide humanitaire à Gaza. Et puis retour sur les bombardiers furtifs américains B2 qui ont frappé les sites nucléaires iraniens. Enfin en culture, direction Venise en Italie, où nous découvrirons l'exposition de Thomas Stöck, grand artiste contemporain allemand.
RFI Midi.
En Ukraine, les attaques aériennes russes se multiplient ces derniers mois. Pour cette seule semaine, plus de 114 missiles, 1270 drones kamikazes et près de 1100 bombes planantes qui ont été lancées à travers le pays. La nuit dernière, les Ukrainiens ont dû à nouveau faire face à une attaque d'ampleur. Précision de notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chaz.
Une nouvelle fois, des millions d'Ukrainiens ont passé la nuit sous les bombes russes lors d'une attaque combinée de plus de 60 missiles et 477 drones selon la défense antiaérienne ukrainienne. Pendant plusieurs heures d'angoisse, les explosions se sont multipliées à travers le pays, dans le sud à Zaporijia et Mykolaïev et dans la région centrale de Cherkassy à Smila. 6 personnes, dont un enfant, ont été blessées et plusieurs bâtiments résidentiels ainsi que l'université agricole ont été endommagés. À Poltava, la gare centrale a été visée. Et plusieurs régions de l'ouest du pays ont également essuyé des frappes. Cette nuit, l'Ukraine a également perdu un pilote renommé, le lieutenant-colonel Maxim Oustimenko, 32 ans. Il est mort après avoir abattu 7 cibles, missiles et drones au-dessus de l'Ukraine, mais il n'a pas eu le temps de s'éjecter lorsque son propre avion a été touché. Le président Volodymyr Zelensky a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort du pilote et rappelle que Kiev est prêt à acheter les systèmes de défense antiaérien américain Patriot afin de sécuriser le ciel ukrainien. Il dénonce aussi ces nouvelles frappes russes qui montrent que Moscou n'a aucune intention de faire la paix et demande davantage de pression sur la Russie et de protection pour l'Ukraine. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
De nouvelles victimes à Gaza comme tous les jours. La défense civile de la bande de Gaza annonce ce midi la mort de 17 personnes, dont 3 enfants, dans des frappes ou des tirs de l'armée israélienne. Des dizaines de blessés ont également été transportés vers des hôpitaux après ces attaques. L'armée israélienne avait lancé un appel à évacuer pour les habitants de plusieurs quartiers du nord de la bande de Gaza, où l'armée dit mener des opérations d'une force extrême contre le Hamas. Les opérations militaires vont donc s'intensifier et s'étendre vers l'ouest jusqu'au centre de Gazaville. Et la polémique enfle en Israël. Les soldats israéliens ont-ils ordre de tirer sur des civils non armés à Gaza lors des distributions d'aide alimentaire? C'est ce qu'affirme le journal israélien Haaretz sur la base de témoignages de soldats. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou parle de diffamation et de fausses informations. L'armée dément, elle aussi. Pour les Palestiniens de Cisjordanie qui visionnent ces scènes régulièrement, l'intention de tuer les civils ne fait aucun doute. À Ramallah, un reportage d'Alice Moreno.
Il hésite d'abord à s'exprimer par peur de représailles de l'armée israélienne, mais Yassine finit par parler. Il n'a que trop vu ces vidéos de tueries à Gaza.
Aux informations, on ne voit que la mort. Chaque jour, la mort. Rien que la mort.
Il pense en particulier aux images de ces Gazaouis pris pour cible sur les points de distribution d'aide alimentaire.
C'est ce que j'ai vu à la télévision. Les gens vont au point de distribution, puis se mettent à courir dans la direction opposée. Pourquoi ? Alors qu'ils vont juste chercher à manger.
Pour chacun ici à Ramallah, l'intention de tuer est évidente. Les soldats israéliens profitent, selon eux, du rassemblement de population pour tirer.
L'occupation dit aux habitants de venir dans une zone. Quand les habitants arrivent dans ce secteur, il n'y a rien que des snipers et des avions. En réalité, ils tentent une embuscade aux civils. Les civils n'ont rien à voir avec cette guerre ou quoi que ce soit. Les civils veulent juste survivre. Les forces d'occupation tirent sans distinction sur les jeunes, les vieux, les femmes, les enfants. Ils vont juste chercher un morceau de pain et ils trouvent la mort.
Les autorités israéliennes démentent les accusations de tirs délibérés sur des civils sur les points de distribution alimentaire, mais un des soldats cités par le journal israélien Haaretz parle bien de champ de bataille. Alice Moreno, Ramallah, RFI.
Et nous reviendrons dans quelques minutes avec notre invitée Marie-Elisabeth Ingre, coordinatrice d'urgence à Gaza pour Médecins sans frontières sur cette situation dans l'enclave palestinienne. Et le conflit israélo-palestinien qui s'est exporté au Royaume-Uni lors du festival de musique populaire de Glastonbury. Un groupe en particulier a monopolisé l'attention, le collectif controversé de rappeurs nord-irlandais Kneecap. L'un des membres du trio fait l'objet de poursuites judiciaires après avoir arboré au cours d'un concert un drapeau du Hezbollah. La présence du groupe au festival a fait polémique en Angleterre. Précision depuis Londres de Sarmenet.
Ils étaient près de 30 000 hier après-midi à s'être massés sous un soleil de plomb devant la scène Westholtz pour assister à la prestation du trio qui aura duré près d'une heure. Keffieh palestinien autour du cou, Kneecap a mené des chants condamnant Israël et insultant le Premier ministre Keir Starmer après que celui-ci a jugé leur présence au festival inappropriée. Il n'était pas le seul. Au Royaume-Uni, depuis plusieurs semaines, une trentaine de responsables politiques et de dirigeants de l'industrie musicale avaient demandé aux organisateurs de Glastonbury de déprogrammer le groupe après l'inculpation le mois dernier de l'un des chanteurs pour avoir exhibé un drapeau du Hezbollah lors d'un concert. La BBC, qui diffuse le festival sur ses antennes, avait fait le choix hier de passer la performance du groupe, mais de ne pas la télécharger sur leurs plateformes en ligne, un choix condamné aujourd'hui par le gouvernement britannique et notamment par Wes Streeting, le ministre de la Santé, interrogé par Sky News.
J'ai trouvé cela affligeant, pour être honnête, et je pense que la BBC et Glastonbury doivent répondre à des questions sur la façon dont nous avons vu un tel spectacle sur nos écrans hier.
Le groupe originaire de Belfast nie soutenir le Hamas ou le Hezbollah. Prochain rendez-vous devant la justice britannique pour s'en défendre le 20 août à la Westminster Magistrates Court. Sarah Menei, Londres, RFI.
Nouvelle illustration du changement climatique en cours à cause de notre usage du pétrole, du gaz et du charbon. Le sud de l'Europe suffoque sous une vague de chaleur précoce alors que l'été commence à peine. Au Portugal, les deux tiers du pays sont en alerte orange avec un risque maximal d'incendie. En Espagne, le thermomètre a dépassé les 40 à Séville. Et en Italie, 17 villes sont placées en alerte rouge ces jours-ci, y compris des villes du Nord comme Turin et Milan. L'Italie où les syndicats ont obtenu, dans plusieurs régions, la suspension du travail aux heures les plus chaudes pour celles et ceux qui travaillent dehors. Les explications de Lucille Gimbert.
Grâce à des accords négociés par secteur et avec 5 régions italiennes, pour le moment, les travailleurs agricoles, horticoles ou de la construction peuvent cesser leur activité aux heures les plus chaudes, entre midi et 16 heures. Ce besoin nous est remonté de la base, explique Salvatore Marra du premier syndicat italien, CEGIL.
On a observé à partir du terrain beaucoup de personnes qui ont eu des malaises. On a eu, il y a quelques années, une travailleuse dans les Pouilles, dans l'agriculture, qui est morte à cause des vagues de chaleur. Et les cas sont de plus en plus nombreux parce que les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes, la chaleur augmente.
Les patrons ont aussi l'obligation de fournir de l'eau, un point où se refroidir, et des compensations financières sont prévues pour les travailleurs et les entreprises contraintes de cesser l'activité dehors en raison des températures.
L'État met, disons, l'argent et les régions doivent après, avec les syndicats et les représentants des employeurs, signer des accords pour l'utilisation des amortisseurs sociaux. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à travers la Confédération européenne des syndicats, parce que ce n'est pas un phénomène italien, qui a un fonds européen pour ces vagues de chaleur.
Le syndicaliste appelle aussi à ne pas retarder la lutte contre le changement climatique et il martèle le bien-être des travailleurs et même la possibilité de continuer à vivre dans certaines régions d'Italie sont en jeu.
Et en France, la canicule s'intensifie, la quasi-totalité du pays est assommée par la chaleur. Les sports avec vous, Olivier Pron, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Football, mondial des clubs aux États-Unis, toujours à l'affiche ce dimanche avec la suite des huitièmes de finale.
Deux qualifiés hier qui s'affronteront logiquement en quart de finale, les Sao Paulistes de Palmeiras et les Anglais de Chelsea, deux qualifications après prolongation, face respectivement à Botafogo 1-0 et au Benfica Lisbonne 4 buts à 1 ce dimanche. 20h, temps universel, le Bayern Munich affronte Flamengo, club de Rio, c'est à Miami que cela va se passer. Juste avant, 16h, TU à Atlanta, le Paris Saint-Germain se frotte au dernier club américain en lice, l'Inter Miami, d'un certain Lionel Messi, ex-joueur du PSG pendant 2 saisons, où il n'a clairement pas laissé un souvenir impérissable et en est parti bien aigri, apparemment. Les Parisiens, champions d'Europe, partent évidemment favoris, malgré les conditions climatiques compliquées, là-bas aussi, la forte chaleur. Aux États-Unis, il n'y a pas qu'en Europe. Pour Lucas Hernandez, heureux de disputer ce mondial des sports, ce mondial des clubs, plutôt. L'objectif est évidemment d'aller le plus loin possible.
C'est encore des nouvelles expériences, des matchs à jouer contre des équipes aussi comme l'Inter de Miami qu'on n'a jamais affronté. Du coup là, ça nous permet d'affronter des équipes de toutes les parts du monde et ça nous permet aussi de continuer à attraper de l'expérience. C'est bien parce que le groupe il vit bien, on est contents tous d'être là, d'être ensemble et maintenant qu'on est là et qu'on va jouer ce 8e de finale, bien sûr on veut gagner pour essayer d'arriver jusqu'à la fin de cette compétition.
Lucas Hernandez a noté le retour très probable, même quasi assuré, d'Ousmane Dembélé dans les rangs parisiens. Il est rétabli de sa blessure à la cuisse.
Et on y croit aussi dans le camp d'en face, Olivier.
Ah bah oui, avec beaucoup de respect pour certains, pas tous, comme Luis Suarez, un joueur comme Messi d'ailleurs, qu'a entraîné au Barça Luis Enrique aujourd'hui sur le banc du PSG. Un entraîneur qui a profondément marqué Suarez. L'Uruguayen l'a évoqué en conférence de presse avant de parler du défi qu'il attend avec son équipe.
Pour moi, avec le maestro Tabarez, sélectionneur de l'Uruguay, Luis Enrique est l'entraîneur le plus important de ma carrière. Pour ce qu'il m'a enseigné, pour tout ce que j'ai appris avec lui, ça m'a profondément marqué, notre connivence aussi. Et je sais combien c'est difficile de jouer contre le tenant du titre de la Ligue des Champions. Ça va être compliqué, mais bon, comme je l'ai déjà dit, nous avons les armes pour être compétitifs, à condition de corriger certaines erreurs que nous avons pu faire depuis le début de la compétition, parce que contre Paris, ça ne passera pas. La différence sera trop grande.
Ouais, l'Inter Miami de Luis Suarez face au PSG, coup d'envoi 16h TU.
Rugby Olivier avec un éclatant de finale au top 14 hier au Stade de France.
Combat, suspense, magnifique phase de jeu et au bout de ce suspense et de la prolongation, le Stade Toulousain, champion de France aux dépens de Bordeaux-Bègles, le club le plus titré du pays, a remporté son 24e bouclier de Brennus, le 3e consécutif, victoire au terme d'une finale épique, on l'a dit, score final 39-33, c'est vous dire. Un mois et demi après leur titre européen, les Bordelais ne réaliseront donc pas le doublé, le coup est rude. Écoutez en revanche la joie du 3e ligne de Toulouse, l'international français Anthony Gelon.
Franchement, aujourd'hui, c'était le rêve. Le match qu'on fait, ils reviennent à la dernière action. 33-33, on était tous morts et il reste 20 minutes après prolongation et toute l'équipe a rien lâché. On gagne à la fin de 6 points, c'est énorme, franchement. On allait chercher avec les triples, avec ce qu'on n'avait plus. On n'avait plus d'énergie, on n'avait plus rien, mais avec ce qui nous restait après la saison qu'on a passée où tout le monde nous promettait l'enfer ce soir. Mais franchement, je suis fier des mecs. Les affaires, on a fait un match de dingue, je crois qu'on a fait le meilleur match de l'année ce soir devant, ici en finale, donc franchement c'est extra ce soir et on va bien fêter ça je pense.
Non, on n'a aucun doute là-dessus, Anthony Gelon avec nos confrères de France Télévisions. Un tout dernier mot de Formule 1 avec le départ du Grand Prix d'Autriche dans 45 minutes et le duel annoncé McLaren-Ferrari.
Merci Olivier Pron pour ce journal des sports bien complet. Retour donc sur la guerre à Gaza, la situation dramatique que vivent les Gazaouis. À présent, avec nous pour en parler en direct de Deir el-Bala, entre Rafah et Gazaville, Marie-Elisabeth Ingres, coordinatrice d'urgence à Gaza pour Médecins sans frontières. Bonjour.
Bonjour.
Merci de prendre du temps pour répondre à nos questions. Déjà, nous allons bien sûr aborder votre demande concernant le démantèlement de GHF, la fondation soutenue par les États-Unis qui distribue seule l'aide humanitaire et pourquoi vous souhaitez ce démantèlement. Mais avant, vous êtes de retour dans la bande de Gaza depuis 2 semaines. Avez-vous personnellement, Marie-Elisabeth Ingres, constaté des changements majeurs depuis votre dernière mission ?
Je vous remercie. La dernière fois que j'étais à Gaza, c'était en 2019. Et je peux vous assurer que ce que je vois aujourd'hui, c'est un tout autre Gaza. Je ne reconnais plus rien. Le nord de Gaza est complètement détruit. Et de plus, comme l'offensive israélienne continue et de façon assez intensive d'ailleurs ces derniers jours, il y a des tentes partout, sur la plage, dans les rues, au milieu des décombres. Et dans le sud, ce sont des camps de déplacés, des camps de tentes à perte de vue. Et ce qui est choquant quand on connaît Gaza, c'est que c'était un endroit très urbain. Les gens vivaient comme nous, dans des maisons, avec l'eau courante et l'électricité, et là on vit dans les tentes, dans le sable, dans la poussière. Je ne sais pas combien il y a de toilettes ou de douches par habitant, mais il n'y en a pas suffisamment. Les gens n'ont pas de travail, les gens n'ont plus suffisamment de nourriture et d'eau. On les voit faire la queue avec des jerrycans pour prendre de l'eau aux différents points d'eau qu'on a tenté de mettre en place un petit peu partout. Donc c'est une situation, quand on connaît Gaza, qui est un peu apocalyptique, qui est extrêmement choquante.
Alors justement, comment se déroule concrètement la distribution de l'aide humanitaire à Gaza aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui c'est très compliqué parce que depuis 100 jours ou presque, il n'y a presque plus rien qui est rentré, à part à travers cette fondation qui a été créée, la Gaza Humanitarian Foundation, et où quelque part il y a eu cette volonté de prendre la place des Nations Unies en considérant que l'assistance humanitaire qui était fournie auparavant ne fonctionnait pas, alors que durant le cessez-le-feu, nous avons réussi les uns et les autres, les ONG et les organisations humanitaires des Nations Unies, à envoyer énormément de nourriture, de médicaments pour subvenir aux besoins de la population. Et là, pour vous donner un exemple, avant il y avait 400 points de distribution d'aide alimentaire, aujourd'hui il n'y a plus que 4. C'est 4 qui sont appuyés par cette fondation. Mais avec, selon ce que nous avons comme témoignage, hein, parce que nous ne sommes pas les témoins oculaires de ces distributions-là, mais nous recevons malheureusement les personnes qui ont été blessées sur place, et elles nous disent que c'est totalement chaotique, qu'elles arrivent dans un terrain où il y a les palettes qui sont disposées, à même le sol et les caisses, et que tout le monde essaie de prendre ce qu'il peut prendre, c'est le premier venu qui est servi. Et à côté de ça, du moment qu'il y a énormément de monde et de pression, tout d'un coup on leur tire dessus. Ils sont pas vraiment capables de dire qui, mais au final on a des blessés chaque jour, au moins une centaine de blessés chaque jour, et une quarantaine ou une dizaine de personnes qui meurent. Donc ce sont des distributions qui sont mortelles. Ce ne sont plus des distributions pour donner de la nourriture en fait. Les gens sont tellement désespérés que quelque part ils prennent le danger d'y aller, même s'ils savent que peut-être ils vont se faire tirer dessus.
Alors justement, vous dénoncez les agissements de GHF qui distribue l'aide humanitaire, et vous dites qu'il a été conçu pour humilier les Palestiniens, c'est ça ?
Oui, mais ce n'est pas que ça en fait. Si vous voulez, on a l'impression qu'il y a tout un système assez pervers en fait qui est mis en place par les autorités israéliennes pour donner le minimum qui va éviter que les gens meurent de faim, qui va éviter que les gens meurent de soif. Et donc tout arrive un peu au compte-goutte. Donc on ne peut jamais anticiper, que ça soit pour les gens sur place ou nous en tant qu'acteurs humanitaires, pour essayer d'apporter un soutien. Donc en fait, ça ne donne pas la possibilité aux gens de pouvoir s'organiser, de pouvoir avoir quelque chose de correct. En fait, on a l'impression qu'il y a un chaos qui est organisé par les autorités palestiniennes, qui joue en plus entre les différentes familles, les différents groupes, etc. Et donc ce chaos amène de la violence, amène évidemment de la souffrance et encore plus de vulnérabilité auprès de ces populations.
Alors, Marie-Elisabeth Ingres, on a bien compris, vous ne pouvez pas accéder au centre GHF, justement. Vos équipes médicales, vous nous l'avez dit tout à l'heure, reçoivent chaque jour de nombreux blessés. Dans quel état ils arrivent ? Ils sont blessés par balles, ils sont blessés par des éclats d'obus, par des éclats. Qu'est-ce qu'ils vous racontent exactement au niveau de leurs blessures ? Qu'est-ce que vous constatez ?
Ils sont essentiellement blessés par balles et ils sont en fait... Il y en a certains qui demandent vraiment des soins intensifs. Donc nous, en fait, pour vous expliquer, il n'y a tellement plus d'hôpitaux qui fonctionnent à part quelques-uns. Il y a maintenant beaucoup d'hôpitaux de campagne qui ont été mis en place par les organisations humanitaires, mais ça ne couvre pas les besoins. Donc en fait, tous les hôpitaux sont surchargés. Donc comme on a cet afflux de blessés et de blessés très graves. Ils arrivent même dans nos centres de santé, qui sont quelquefois des centres de santé primaires, où normalement on ne s'occupe pas de blessés graves. Et donc, quelquefois, on va faire un premier soin et on va être obligé de les transférer dans les quelques hôpitaux qui vont pouvoir les recevoir. Mais en fait, tout le monde est débordé. Je veux dire, il y a deux personnes par lit, il y a des hôpitaux, les patients sont dans les couloirs. Donc en fait, ces distributions ont des conséquences énormes sur le système de santé qui est déjà complètement détruit, il faut être honnête.
Alors on voit bien là que vous travaillez dans un chaos, dans un contexte extrêmement particulier, contexte de guerre, dans un petit territoire complètement bloqué. Est-ce que vous pouvez sortir librement? Est-ce que vous pouvez revenir? Comment ça se déroule très concrètement pour qu'on arrive à comprendre votre situation?
Bon, je crois que le concept de liberté est tout relatif à Gaza. Mais oui, on peut rentrer et sortir parce qu'il y a un système qui s'appelle la coordination. Donc, c'est une sorte d'autorisation que nous demandons aux Israéliens. On donne les listes de personnes qui veulent rentrer à Gaza ou qui veulent sortir à Gaza. Elles sont soumises aux autorités israéliennes qui ensuite nous disent si c'est possible ou pas de rentrer. Et ensuite, nous devons tous partir depuis Amman en Jordanie. Et il y a ce qu'ils appellent un corridor humanitaire. On pourra toujours discuter de l'utilisation du mot humanitaire pour ce corridor. Et donc, nous sommes escortés depuis la frontière jordanienne jusqu'à Gaza par les autorités israéliennes pour rentrer dans Gaza.
Alors vous, MSF...
Mais tout ceci est très contrôlé.
Alors vous demandez encore une fois la levée du blocus sur les denrées alimentaires, le carburant, les fournitures médicales et humanitaires. En fait, et vous voulez revenir au dispositif qui existait auparavant, à savoir une aide coordonnée par les Nations Unies.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on l'a prouvé durant le cessez-le-feu, quand les Israéliens nous donnent un tout petit peu plus de liberté, et encore, il y a énormément de restrictions sur certains produits, etc., mais on a prouvé qu'on pouvait tous apporter énormément de soutien aux populations. On a envoyé énormément d'approvisionnements sur place. Donc, ce n'est pas parfait, parce qu'il y a plein d'autres questions qui rentrent en ligne de compte, mais au moins, on arrivait à envoyer ce qu'il fallait. Là, aujourd'hui, nous, on a nos équipes qui distribuent de l'eau et chaque jour, on se dit, si on n'a pas suffisamment de carburant, est-ce qu'on va être capable de faire tourner les générateurs et de faire tourner les forages pour que les gens aient de l'eau? Les quantités d'eau qu'on leur donne sont ridicules, elles ne sont pas suffisantes au regard, je dirais, des standards auxquels, normalement, on devrait répondre.
Et enfin, dernière question, comment vous sentez la population palestinienne? Qu'est-ce que les Palestiniens vous racontent? En quel état d'esprit ils sont aujourd'hui?
Ils sont désespérés, ils sont fatigués, ils s'accrochent à toute nouvelle qui parle de cesser le feu. Et à chaque fois, moi, ça me rend triste parce que je ne sais jamais combien de temps ça va mettre avant que ça arrive. Et qu'on sait aussi qu'avant un cesser le feu, il y a souvent une augmentation des bombardements. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des bombardements qui ne s'arrêtent pas. Au sud, au nord, c'est chaque jour qu'il y a des bombardements. Ils ont l'impression qu'on les a abandonnés. Ils ont l'impression que personne dans le monde ne s'occupe d'eux. Ils ne comprennent pas très bien ce qu'on attend d'eux. Ils sont terrifiés à l'idée que tout le monde pense qu'ils sont tous Hamas, qu'ils sont tous des terroristes, alors qu'en fait ce sont juste des hommes, des femmes qui essaient juste de vivre leur vie et qui vivaient leur vie avant, et là en fait ils se retrouvent complètement, oui, humiliés. Ils se retrouvent dans une situation où on les parque et on leur demande même pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucun choix, ils ne peuvent que subir.
Marie-Elisabeth Ingres, vous êtes coordinatrice d'urgence à Gaza pour Médecins sans frontières. Merci beaucoup. Vous étiez en direct de Deir el-Bala entre Rafah et Gazaville. Le raid aérien américain Midnight Hammer, les 21 et 22 juin dernier, a frappé 3 sites nucléaires en Iran, Natanz, Isfahan et Fordo. Si l'étendue des dégâts n'a pas été complètement établie, la manœuvre a mis en exergue la puissance aérienne des États-Unis, dont le bras armé fut les bombardiers B-2, des bombardiers furtifs, nimbés de mystère. Ligne de défense avec Franck Alexandre.
21 juin, 6h01 du matin, 7 bombardiers B-2 quittent la base de Whiteman dans le Missouri pour un vol transatlantique. Signe qu'ils décollent à pleine charge, ils ravitaillent aussitôt. L'escadrille de Northrop Spirit se dilue dans les hautes altitudes à environ 15 000 mètres. Minuit, les bombardiers entrent dans l'espace aérien iranien, prêts à lâcher les GBU-57, des bombes de plus de 13 tonnes. Xavier Titelman, expert aéronautique.
Et c'est pour ces différentes raisons que c'est cette appareil qui a été utilisé pour pouvoir frapper dans la profondeur iranienne sans se faire détecter et larguer ces bombes qui sont uniques au monde, qui sont absolument gigantesques, parce que tout simplement aucun autre appareil n'aurait été capable de les délivrer ou alors d'arriver si loin dans la profondeur iranienne sans être détecté.
20 minutes de frappe avant un repli à 1h du matin, dimanche 22 juin, vers les États-Unis, 37 heures de vol, aucun autre appareil au monde n'est capable d'une telle endurance.
L'avion est entouré d'énormément de secrets. On sait qu'il y a deux personnes à bord avec beaucoup d'automatisme. Ils ont a priori des lunettes qui éclairent la rétine avec un certain angle, avec une certaine fréquence qui évite la sécrétion des hormones de la fatigue. Et donc à l'intérieur de l'avion, il y a quand même une petite cuisine, il y a de quoi dormir, etc. Donc c'est organisé pour faire des missions qui sont incroyablement longues. Ils vont être capables de toucher quasiment l'intégralité de la Terre avec les ravitaillements.
Les B2 ont révélé leur capacité en Afghanistan pour frapper les grottes, les tunnels, les repères enterrés du réseau Al-Qaïda. Mais à l'origine, ils devaient porter le fer et le feu contre l'Union soviétique. 54 mètres d'envergure, mi-faucon, mi-chauve-souris, dépourvus de dérives, les toujours très modernes B2 sont le fruit de la guerre froide. Xavier Tittleman.
À la fin des années 80, il y avait pour objectif d'avoir un avion furtif, parce que les Américains avaient des moyens technologiques qui étaient très très supérieurs à ce que savaient faire les Soviétiques, et ils savaient que les composants électroniques soviétiques n'étaient pas capables de détecter ces avions. Et donc, ils ont développé le B2, qui devait sortir juste au moment de la fin de l'URSS. Or, justement, avec l'effondrement du bloc soviétique, les Américains ont renoncé à avoir une flotte qui était pléthorique, et ils l'ont réduit à seulement une vingtaine d'appareils. C'est pour ça que le coût unitaire des avions est autour de 3 milliards de dollars aujourd'hui avec l'inflation. Et aujourd'hui, ils sont en train de développer son successeur, qui va s'appeler le B-21 Red Air.
Midnight Hammer, raid aérien contre les installations nucléaires iraniennes, est aussi un signalement stratégique, un message envoyé à la Chine, anytime, anywhere. Avec les B2, les États-Unis indiquent qu'ils peuvent frapper partout en passant sous les radars.
C'était Ligne de défense sur les bombardiers furtifs américains B2 avec Franck Alexandre.
RFI Midi.
Une page culture pour terminer. Thomas Schütte, le grand artiste contemporain allemand, est en majesté à la pointe de la douane, l'un des deux musées à Venise appartenant au milliardaire François Pinault, avec le Palazzo Grassi. L'exposition montre des œuvres depuis les années 70. On peut voir des œuvres plus petites et des dessins peu connus du public. Muriel Mahalouf.
Mutter Erde, Mère Terre, en allemand, une sculpture monumentale bleutée, visage serein, regard bienveillant, accueille le visiteur sur le parvis devant la pointe de la douane, et c'est tout un symbole. Camille Morino, co-commissaire de l'exposition.
Elle impose, pour moi, une présence d'une femme puissante, dont les yeux d'ailleurs s'allument la nuit. Une femme qui est aussi grande que l'homme, même si elle est placée sur un piédestal, qui a des bras, des jambes, alors que l'homme, lui, a un corps relativement inexistant. Donc pour moi, il y a une sorte de déclaration ici, qui nous invite à regarder aussi le travail de Schütte sous l'angle du genre, car la manière dont les hommes et les femmes sont représentés est très différente.
Ainsi, face aux femmes, tout en intériorité, yeux fermés, calmes, parfois en pleurs, dégageant de l'émotion, les hommes sont difformes, imbus de leur pouvoir. Pantins désarticulés, comiques s'ils n'étaient si effrayants. Les figures masculines monstrueuses de Thomas Schütte n'ont jamais été aussi actuelles à l'heure des excès trumpistes et des outrages de Netanyahou. L'artiste jette un regard désabusé sur le monde, non dénué d'humour.
Il y a des hommes grimaçants qui peuvent être tout à fait aussi perçus soit comme drôle, soit comme terrifiant, mais d'ailleurs les deux coexistent, et c'est sa volonté d'avoir une œuvre très ouverte sur laquelle on peut projeter différentes typologies d'émotions. Il y a aussi des personnages qui dansent ou qui sont dans une forme de pantomime, avec cette présence du théâtre qui est assez importante dans son travail, et donc c'est quelqu'un qui va mettre en scène parfois ses propres œuvres.
Des œuvres que l'artiste dispose dans le très beau bâtiment de la pointe de la douane comme sur une immense scène. De la tour où est enfermé Vaterstadt, ou Père État, la sculpture monumentale version masculine de la mère Terre, jusqu'au rebord des fenêtres d'où on aperçoit l'eau du canal où l'artiste a déposé ses esprits.
Ses esprits, c'est une forme de troisième genre dans le travail de Thomas Schütte. Donc il y a les hommes, les femmes et puis ces personnages non binaires qu'il appelle les esprits. et qui va travailler d'abord en petit. C'est des petits personnages de la taille de la main qui commencent à faire en cire et qui apparaissent au milieu des années 90. Et puis, il y a des versions très monumentales de ces esprits au centre de l'exposition, dans ce qu'on appelle le cube.
Des sculptures en bronze, argile, cire, céramique, aux côtés d'une multitude de dessins exécutés au quotidien par l'artiste et très peu montrés. Des œuvres qui nous font entrer dans l'univers carnavalesque de Thomas Schutte, en phase avec notre monde dangereusement grotesque.
Merci beaucoup Muriel Mahalouf. Dans 30 secondes, Afrique Midi.
Tout à l'heure sur RFI, idée, Pierre-Edouard Deldic.
Le recours à la violence pour la défense des idées était au cœur des divergences entre Aron et Sartre. Notre invitée, la philosophe Perrine Simon-Naoum.
Qu'est-ce que Aron oppose à la violence? Pas tellement, comme on a l'habitude de le dire, une raison qui serait une raison dépassionnée, mais au contraire la possibilité du débat.
Idée, proposée par Pierre-Edouard Deldic, tous les dimanches à 19h10 TU sur RFI.